Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Depuis toujours et depuis longtemps, les hommes ont vite compris que leur temps, celui des semailles, des moissons, des récoltes et des fêtes, était rythmé par un cycle relativement long, celui de l'année. Encore restait-il à le mettre en forme et à préciser ce qu'est un calendrier. Alors c'est de ce calendrier dont nous allons parler en compagnie de Denis Savoie. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le planétarium et le département d'astronomie astrophysique du Palais des Découvertes à Paris. Et quand on plonge le nez dans cette histoire de calendrier, Denis, finalement on parcourt les derniers milliers d'années avec délectation et avec aussi beaucoup de complexité, parce que toucher au temps, ce n'est pas innocent. Toucher au temps, c'est toucher finalement à la vie des individus et au rythme de ce temps lui-même.
Absolument, d'autant plus qu'il y a beaucoup de calendriers. Et il y a le calendrier, bon, il y a le nôtre qui est grégorien, mais on pourrait parler aussi du calendrier musulman, du calendrier juif, du calendrier chinois, cambodgien, maya, etc. Donc c'est très difficile, mais globalement, comme vous le dites, c'était un des premiers moteurs, je dirais, de l'astronomie. C'était utiliser le ciel à des fins de repérage du temps. Donc l'année, le mois, le jour, l'heure, ça c'est vraiment un des plus puissants moteurs de l'astronomie.
Alors on s'est sans doute rendu compte assez rapidement finalement qu'il y avait un cycle qui était régulier. La Terre tourne autour du Soleil et finalement ça revient de façon régulière. L'idée de l'année, les 365 jours, alors, et les poussières, et ces fameuses poussières vont compter énormément, mais quand est-ce que ça apparaît dans l'histoire de l'astronomie?
Alors en fait, ça apparaît globalement, le premier calendrier digne de ce nom, on va dire, c'est le calendrier égyptien, qui apparaît au 5e millénaire avant notre ère, et qui est un calendrier où l'année fait 365 jours. Alors il va être en usage pendant pratiquement 5 millénaires, ce qui est considérable. On avait bien vu qu'il y avait une relation effectivement avec les saisons, mais le calendrier égyptien est fondamentalement non astronomique, puisqu'il est divisé en seulement 3 saisons. Et le seul caractère astronomique du calendrier égyptien, qui comporte 12 mois de 30 jours, c'est que les prêtres avaient remarqué que l'apparition fugace de l'étoile Sirius le matin dans l'aube, qu'on appelle Sotis. Et cette apparition fugace de l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, s'appelle le lever héliaque de l'étoile. Et bien on s'est aperçu que ce lever héliaque coïncidait avec les crues du Nil qui amenaient la chaleur. Et plus tard, ce qui est amusant, c'est que Sirius, se trouvant dans la constellation du grand chien, donc Canis en latin, ça donnait le mot canicule, synonyme avec l'apparition de chaleur. Alors, on avait fixé le début de l'année à cette apparition du lever héliaque de Sirius. Mais comme l'année utilisée par les Égyptiens fait 365 jours pile, eh bien, elle a dérivé par rapport à l'année des saisons qu'on appelle l'année tropique et qui est quand même plus longue de 5h48 minutes, grosso modo. Et pendant des millénaires, les Égyptiens ont vécu avec une année qui vagabondait par rapport aux saisons, par rapport au printemps, à l'été, un petit peu comme le calendrier musulman aujourd'hui, qui est un calendrier lunaire et qui est mobile par rapport à notre calendrier.
On établit très vite la relation entre le calendrier et son utilisation, c'est-à-dire l'agriculture, les fêtes, la célébration des dieux. Enfin, c'est un compteur.
Exactement, c'est un compteur. On compte donc l'année, le mois, mais on doit ce calendrier, il faut le placer dans une ère, c'est-à-dire l'ère à partir de laquelle on compte les années. Alors là, il va y avoir une cohabitation de beaucoup d'ères dans l'Antiquité, même encore aujourd'hui d'ailleurs, elles sont toujours en usage pour certaines. Alors ce calendrier égyptien, il est amusant parce que, je l'ai dit, ce sont des mois de 30 jours qui sont divisés en décades, c'est-à-dire 3 fois 10 jours. Et ce qui est amusant de signaler au passage, mais ça nous emmènerait très loin, c'est que la division du jour en 24 heures, donc la division du jour en 12 heures et la nuit en 12 heures, donc duodécimale du jour et de la nuit, provient d'une division décimale du calendrier. Ça vient de nos 24 heures, qui par la suite vont donner naissance à la semaine astrologique. Parce qu'on avait l'habitude, ça c'est grec, d'attribuer une heure à une planète. Et avec des petits calculs assez simples, ça a donné notre succession aujourd'hui des jours, vous savez, lundi, mardi, mercredi, jours qui sont attribués à la Lune, à Mars, à Mercure, à Jupiter et à Saturne, ça vient de là. Mais la semaine est d'invention tardive, hein. C'est 3e siècle, c'est d'origine hébraïque, les semaines de 7 jours, mais la succession des jours est d'origine astrologique, et grosso modo, ça va s'imposer assez tard, parce que ce qui va dominer en Occident, évidemment, c'est le calendrier romain.
Alors, le soleil est utilisé comme le premier compteur, le premier battant qui permet de voir quand il revient dans la même position dans le ciel ce cycle de temps, 365 jours. Est-ce que la Lune est aussi, par sa régularité, un compteur qui va être utilisé pour compter le temps et comment s'inscrit-elle dans le calendrier, dans l'histoire du calendrier ?
Alors pratiquement, on pense que tous les calendriers ont été à l'origine lunaires, que ce soit le babylonien, l'égyptien qui était lunaire avant et le calendrier romain. Parce que la lune, les phases de lune se distinguent beaucoup plus aisément que la succession des saisons qui ne sont pas tellement marquées dans certaines régions.
Oui, on se donne rendez-vous à la pleine lune. Quoi.
Mais oui, c'est ça. Si les musulmans ont un calendrier purement lunaire, c'est que dans la péninsule arabique, la notion de automne, hiver, printemps, été n'a pas de sens, je veux dire. Donc ça, c'est une vision occidentale des choses. Donc on s'est dit, il y a deux seuls luminaires qui nous servent, ou le soleil ou la lune. Alors, nous, on a un calendrier qui est un peu des deux, parce qu'on a 12 mois, ça correspond quand même aux 12 lunaisons, d'accord ? Les Romains vont avoir un calendrier qui va d'abord être à l'origine purement lunaire, donc qui comptait que 10 mois, et c'est grosso modo sous Numa Pompilius, c'est-à-dire 700 ans avant notre ère, qu'on va instaurer une année de 12 mois. Et nos mois portent encore les noms de cette époque-là. Parce que si on regarde septembre, c'est en latin september, c'est le septième, octobre, c'est le huitième, novembre, c'est le neuvième, et décembre, c'est le dixième. L'année se terminait en décembre, il y avait 10 mois. Alors, sous la République, je l'ai dit, on va mettre janvier et février, parce que l'année chez les Romains commence le 1er mars. Sous la République, on a de nombreux calendriers romains, c'est une confusion épouvantable. Ça serait très long de rentrer dans les détails, surtout que les historiens de l'Antiquité ne sont pas tous d'accord là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ajoutait un mois intercalaire à la fin du mois de février pour maintenir grosso modo les saisons avec le calendrier, d'accord ? Mais le problème, c'est que cette adjonction d'un mois intercalaire était laissée à l'usage des pontifes. Et on sait par Cicéron et Suétone que les pontifes vont utiliser le calendrier à des fins de corruption politique. C'est-à-dire que si vous avez un ennemi à vous qui est au pouvoir, vous allez rétrécir la durée de l'année. Au contraire, c'est un ami à vous qui est de votre parti politique, vous allez augmenter la durée de l'année. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à une véritable confusion, on appelle ça les années de désordre, on arrive grosso modo au 1er siècle avant notre ère, à fêter les fêtes d'hiver en été, les fêtes d'été en hiver. Donc lorsque Jules César arrive au pouvoir, un de ses premiers actes, c'est justement de réformer le calendrier qui est un moyen de corruption politique. Il ne faut pas laisser l'adjonction d'un mois intercalaire à des pontifes. Donc Jules César, qui est un brillant stratège, mais qui n'est pas un scientifique, va faire appel à un astronome grec qui s'appelle Sosigène, va lui demander conseil, et Sosigène va engager une réforme avec laquelle on vit toujours quelque part.
Alors comment fait-il ?
Alors d'abord, il faut qu'il ait une meilleure estimation de l'année que celle des Égyptiens. Et Sosigène estime que la durée de l'année est de 365 jours 6 heures. C'est-à-dire 365,25 jours.
C'est pas mal.
Alors, voilà, c'est pas mal. Y a un écart de 11 minutes par rapport à la réalité. On va voir ce que ça donne. Le problème d'un calendrier qui est solaire, parce que c'est le calendrier julien, c'est-à-dire de Jules César, est solaire, c'est justement ces décimales derrière la durée de l'année. Il faut approximer au mieux ce qu'on appelle la durée de l'année tropique, qui dure 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 45 secondes. Et encore, c'est pas une durée fixe parce que ça diminue un petit peu. Donc tout le problème, ce sont les décimales qu'il y a derrière. Alors Sosigène dit à Jules César, c'est très simple. D'abord, on va ramener le début de l'année au 1er janvier. Et ensuite, on aura 3 années de 365 jours, et tous les 4 ans, on ajoutera une année de 366 jours.
On a inventé l'année bissextile. Enfin, exactement. Il a inventé l'année bissextile.
Exactement. Ça date de là. Alors, Jules César, qui est très content d'avoir fait cette réforme, laisse le soin au pontife de mettre tous les 4 ans, d'annoncer à la population, qu'on aura un jour bissexte. Mais comme aussi c'est un homme qui a un certain orgueil, il se dit « un nom de moi doit porter mon nom ». Et donc le mois de Quintilis a été débaptisé et s'appelle « juillet ». Julius, en l'honneur de Jules César. C'est assez amusant. Le problème, c'est que les pontifes vont mal interpréter la réforme de Jules César, et au lieu de mettre une année bissextile tous les 4 ans, ils vont la mettre tous les 3 ans. Ça va durer encore pendant 36 ans, tout ça. Auguste, successeur de César, va à nouveau rétablir correctement la succession des jours, d'accord, en disant que c'est bien tous les 4 ans, et comme Auguste est un empereur au moins aussi important que Jules César, il va s'attribuer le nom d'un mois, Augustus, qui va devenir août, et qui doit avoir la même durée que juillet. Voilà pourquoi juillet et août ont tous les deux 31 jours.
C'est absolument génial. Juillet et août, c'est Jules César et Auguste.
Exactement. Alors, ce qui est marrant aussi de savoir, c'est qu'à cette époque-là, la semaine, je l'ai dit, n'existe pas. Les Romains comptent par calende, non et ide. Alors, ça remonte à vraiment la République. Le premier jour du mois, ce sont les calendes. Ça vient du latin calare, qui veut dire proclamer. C'est là où les pontifes, ou les prêtres, annonçaient les fêtes importantes. D'accord ? Mais un petit peu à l'image des écoliers qui, aujourd'hui, comptent le nombre de jours qui leur séparent de leurs vacances, les Romains ne comptent pas du tout leurs jours comme nous dans le mois. Ils comptent le nombre de jours qui les séparent de moments importants. On vous dit, ah ben tiens, on est le 3 avant les nones. Les nones, c'est le 9e jour avant les ides. Les ides, ça vient du latin ideare, qui veut dire diviser. C'est à peu près la moitié du mois. Donc on compte le nombre de jours avant les nones, puis avant les ides, et après les ides, grosso modo le 15 du mois, on compte le nombre de jours qui vous séparent du mois suivant. En disant le 5 avant les calendes de avril, le 4 avant les calendes d'avril, etc. Et c'est de là que vient le mot bissextile. Parce qu'on rajoutait le mois intercalaire et le jour intercalaire après le 24 février. Le 24 février, c'est Sextus ante calendas Martias. Ça veut dire le 6e jour avant les calendes de mars. Donc, Saucigène propose de faire redondance sur ce jour, donc bisextus ante calendias martias, ça donnait naissance au mot bisexte pour le jour et bisextile pour l'année. Et donc le calendrier julien, qui porte le nom de Jules César, 45 avant Jésus-Christ, va être utilisé dans tout le monde occidental.
Sauf qu'il reste un petit pouillème. Voilà. Une petite poussière de minutes qui n'est pas complètement réglée, et au fur et à mesure du temps, je présume que ça compte.
Bah, c'est ça le problème. Alors on pourrait se dire 11 minutes, c'est rien du tout, oui, mais 11 minutes par an au fil des années, car la pierre angulaire d'un calendrier, la pierre de touche, c'est pas 50 ans ou 100 ans, c'est le millénaire. Et donc le fait qu'on ait 11 minutes d'écart va provoquer une dérive des dates, des saisons par rapport à la réalité astronomique. Et ça va se poser surtout le problème pour des raisons essentiellement religieuses. Il faut faire un petit arrêt au 4e siècle de notre ère, où se tient à Nicée, en Abitinie, c'est en Turquie actuelle, le premier concile œcuménique qui est rassemblé par l'empereur Constantin, qu'on appelle traditionnellement le premier empereur chrétien. À ce concile de Nicée, il y a tous les évêques de l'Empire qui sont là, qui discutent de différents problèmes comme l'arianisme, etc. Et on va discuter de Pâques. Vous n'êtes pas sans savoir que Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Et on voulait absolument, à l'époque, que dans toute la chrétienté, Pâques se fête le même jour. Or, on avait des dissensions selon qu'on utilisait le compute alexandrin, le compute romain ou le compute d'Antioche. Bref, le concile décide que Pâques, et c'est toujours valable aujourd'hui, serait le dimanche qui tombe après la pleine lune, qui tombe après l'équinoxe de printemps. Cette définition fait que Pâques est une fête mobile qui peut tomber entre le 22 mars et le 25 avril. Alors, à l'époque du Concile, on se dit l'équinoxe tombe le 21 mars, enfin aux alentours du 21 mars, et donc ça sera toujours comme ça. Et les années passent. Mais à cause de cette dérive du calendrier julien, ce qui va se passer, c'est que l'équinoxe va tomber ensuite le 20 mars, puis le 19, puis le 18, puis le 17, et donc ça commence à poser des problèmes pour fêter Pâques. Et on arrive déjà au Moyen-Âge, où il y a des ecclésiastiques qui vont quand même s'émouvoir de cette dérive pascale. Et là, le problème est agité sérieusement au début 16e, au Concile de Trente, où là, on somme la papauté de résoudre ce problème. Alors, c'est un pape qui s'appelle Grégoire XIII, c'est tombé sur lui, qui n'est pas astronome, donc il va faire appel à une commission d'astronomes, dont deux vont jouer un rôle majeur. Aloysius Lilio, qui est vraiment l'initiateur du projet. Et comme il va mourir peu de temps après, ça sera repris par un jésuite de premier plan, qui est Clavius, Christopher Clavius. Alors voilà ce qu'on propose à cette époque-là, une réforme qu'on appelle grégorienne, qui va être imposée à tout l'Empire chrétien, donc au XVIe siècle. À cette époque-là, l'équinoxe tombe le 11 mars, au lieu du 21, donc c'est catastrophique. Première décision des astronomes, qui propose au pape, dans la bulle Intergravissimas de 1582, supprimer 10 jours. Donc on supprime 10 jours dans l'histoire, carrément. Ce qui veut dire qu'on passe, par exemple, du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. Quand vous supprimez 10 jours, vous ramenez donc l'équinoxe au 21 mars. Mais si vous vous contentez de faire simplement la réduction de 10 jours, le problème va perdurer. À cette époque-là, les astronomes comme Clavius et Lilio doivent avoir une meilleure valeur de l'année des saisons. Donc on va faire, justement, c'est l'époque, on en a souvent parlé, de l'astronomie qui rentre dans les cathédrales. On va construire des cadrans solaires et des méridiens intérieurs pour déterminer précisément la durée de l'année tropique. Et on va également utiliser les deux tables, les deux grandes tables astronomiques en usage à l'époque, qui sont les tables alphonsines et les tables pruténiques, qui sont issues des travaux de Copernic. Et donc on va prendre dans ces deux tables des valeurs de la lunaison et de la durée de l'année tropique. Donc revenons à notre problème, on supprime 10 jours, et les astronomes disent, eh bien, en 400 ans, on supprimera 3 années bissextiles. Qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Vous savez que les années bissextiles sont les années qui sont divisibles par 4. Eh bien, par exemple, 1700, 1800, 1900 auraient dû être bissextiles. Elles ne l'ont pas été, mais 2000 l'a été. On a bien supprimé 3 années bissextiles en 4 siècles. De même, 2100, 2200, 2300 ne seront pas bissextiles, mais 2400 le fera. Par cette règle, où on supprime 3 années bissextiles en 4 siècles, eh bien, on obtient une très bonne approximation de l'année tropique, qu'on appelle l'année grégorienne. Pour vous donner un ordre d'idée, l'erreur par rapport à l'année tropique provoque une dérive de 3 jours en 10 000 ans. Alors, il conviendra certainement aux astronomes du futur de régler cette dérive. Ça serait bien prématuré de vouloir la régler dès maintenant. Cette réforme a été immédiatement appliquée dans les pays, évidemment, catholiques, Espagne, France, Italie. Dans les pays protestants, ça a mis plus de temps. Et puis, y a des pays qui l'ont adoptée qu'au XXe siècle. Hein. La révolution bolchevique, par exemple, elle s'est faite en 1918. C'est à cette époque-là que la Russie a adopté le calendrier grégorien, la Grèce en 1924. Et puis d'autres ont eu moins de chance encore, je dirais, c'est l'Angleterre. Parce que l'Angleterre a utilisé le calendrier julien jusqu'en 1751-1752. Et à l'époque, il n'y avait plus 11 jours de décalage, mais 13 jours. Donc on a supprimé 13 jours d'un seul coup, fait que les ouvriers ont défilé dans la rue en disant « Rendez-nous nos 13 jours !» Parce que bon, ça les foutait mal. Et puis, on a aussi à cette époque-là ramené le début de l'année en Angleterre au 1er janvier. Que ça débutait le 25 mars. Ce qui est autre problème qui s'est posé aussi, c'est que ce qu'on appelle le style de l'année, ça n'a pas toujours été le 1er janvier. En France, par exemple, hein, au Moyen-Âge et à la Renaissance, enfin plutôt au Moyen-Âge, on a des régions qui commencent le début de l'année à Noël, ce qu'on appelle le style de la nativité, d'autres qui commencent à Pâques, d'autres le 25 mars, d'autres au 1er janvier. Il faudra maintenant attendre une ordonnance de Charles IX en 1564, qui sera appliquée un peu plus tard, pour que toute la France commence l'année au 1er janvier. Et donc on vit grosso modo, mis à part ce petit épisode de l'année grégorienne, avec un calendrier qui remonte à l'Antiquité.
Donc en fait, le calendrier, ça reste pour les dates comme Pâques, quelque chose qui est flottant, mais qui est compensé à des temps qui sont moyens ou très longs des suppressions de jours. Quoi.
On est obligé de faire ça, parce que encore une fois, je vous dis, c'est la partie décimale de l'année tropique qui pose des problèmes. Alors nous, on a un calendrier qui est relativement simple. On a des civilisations qui ont un calendrier totalement différent. Par exemple, les musulmans ont un calendrier purement lunaire. D'abord, ils comptent les années, non pas, vous savez, depuis la naissance du Christ, mais depuis la fuite de Mahomet de la Mecque vers Médine. C'est donc le 16 juillet 622, si ma mémoire est bonne. Et leurs années comptent alternativement 354 ou 355 jours. Donc c'est purement lunaire, hein, le calendrier, hein, chez eux. Quant aux Juifs, ils ont un calendrier extrêmement sophistiqué, qui date du 4e siècle de notre ère, pour sa forme actuelle, et qui est à la fois solaire, c'est-à-dire qu'il approxime la durée de l'année tropique, mais en plus lunaire, il approxime la lunaison, qui est à peu près 29 jours, 12 heures. Donc on a des années qui sont complexes, où on alterne des années communes et ce qu'on appelle des années embolismiques, qui peuvent avoir 354, 355, 356 jours, et des années de 383, 384 et 385 jours. Donc c'est assez compliqué le calendrier israélite. Hein.
Pourquoi est-ce qu'en astronomie, on continue à utiliser le calendrier julien ?
Vous voulez dire le calendrier... Alors, les orthodoxes utilisent encore le calendrier julien. Vous faites allusion au jour julien.
Au jour julien.
Alors, les jours juliens, ce n'est utilisé que par les astronomes. C'est une invention qui date du XVIe siècle par un philologue de la Renaissance qui s'appelle Scaliger. Et Scaliger a imaginé une période de décompte des jours qui tiennent compte automatiquement des années bissextiles et de la règle grégorienne. Pour vous donner un exemple concret, si je vous demande de me dire combien de jours nous séparent aujourd'hui du 11 août 1503, ça va être très difficile comme ça à faire, entre les années bissextiles, celles qui n'ont pas été, la suppression des jours. Scaliger utilise donc ces jours juliens, dont l'origine est moins 4712 à 12 heures, donc c'est une origine purement fictive, et ces jours juliens, qui sont nommés juliens en l'honneur de Jules César, du calendrier julien, sont utilisés par les astronomes dans leurs calculs, notamment en astronomie planétaire, pour compter le temps de façon cohérente.
Et incontestable.
Et incontestable, voilà. C'est encore très en usage, hein, mais uniquement parmi les astronomes. Hein. C'est une période totalement artificielle, bien sûr.
Donc on en conclura que l'année dure exactement pour aujourd'hui 365 jours, 2422.
Alors voilà, c'est la durée de l'année grégorienne, qui, je l'ai dit, est très proche de l'année tropique. En fait, en toute rigueur, aucun calendrier ne pourrait être parfait, puisque l'année tropique n'est pas constante, elle diminue de 0 seconde 53 par siècle. Alors, on va dire 0 seconde 53, c'est négligeable. Mais ça veut dire qu'au cours des millénaires, tous les calendriers seraient obligés de se retoucher quelque part pour pouvoir approximer l'année tropique. Alors, il y a deux étapes importantes et amusantes. Il y a une tentative de réforme du calendrier à la Révolution française, puisque la Convention, en 1793, pour des raisons anticléricales, a proposé d'abroger le calendrier grégorien et instituer le calendrier républicain, avec, vous savez, les noms vendémiaires, brumaires, fructose, niveaux, etc., qui sont dus à Fable d'Églantine, et dont le début de l'année était fixé à l'équinoxe d'automne du méridien de Paris. Donc ça posait beaucoup de problèmes. Ils ont proposé aussi à cette époque-là, non seulement de réformer le calendrier, mais aussi de réformer l'heure. Et à cette époque-là, on a dit, la journée ne fera plus 24 heures, elle fera 10 heures. Une heure, 100 minutes, une minute, 100 secondes. Dans les deux cas, ça a été un échec. Puisque lorsque Napoléon est revenu au pouvoir, il a rétabli en le 1er janvier 1806 le calendrier grégorien. Qui prouve bien que toute tentative de réforme de la chronologie se heurte surtout à un usage historique et social. On a retrouvé le même principe à la fin du 19e siècle, lorsque des gens comme Camille Flammarion et Auguste Comte ont proposé de réformer le calendrier, encore une fois. Ça a même été jusqu'à la Société des Nations. Et on voulait stabiliser, par exemple, les fêtes de Pâques et les jours pour que ça tombe tous les trimestres à la même date. Encore une fois, ça a été un échec complet.
Dernière question pour clore cette passionnante histoire. Pourquoi le jour dure-t-il 24 heures ? Ou une journée dure-t-elle 24 heures ?
Alors justement, ça remonte aux Égyptiens. Je l'ai dit, un des problèmes auxquels se sont trouvés confrontés les prêtres, c'est de déterminer l'heure la nuit. Il n'y avait pas 36 façons de déterminer l'heure la nuit. Il fallait prendre des étoiles comme indicateur de l'heure la nuit. Donc, ils ont réfléchi de façon pragmatique. Et ça, tout le monde peut le faire par l'imagination. Imaginez que vous soyez dans le désert, à l'aube. Et le soleil va bientôt se lever, mais vous voyez apparaître de façon très fugace une étoile brillante. Vous prenez cette étoile, cette apparition fugace de l'étoile dans l'aube, comme signal de fin de nuit. D'accord ? Le lendemain, vous allez pouvoir reprendre cette étoile comme signal de fin de nuit. Puis le surlendemain, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer au cours du temps ? Comme le soleil va s'écarter l'étoile, votre étoile va se lever de plus en plus tôt. Ça n'a plus de sens de prendre cette étoile comme signal de fin de nuit. Il faut en changer. Alors, si vous êtes psychorigide, vous pouvez prendre une étoile comme signal de fin de nuit tous les jours, toutes les nuits. Mais les prêtres, qui étaient des gens pragmatiques, se sont dit, puisque nos mois du calendrier égyptien sont divisés en décades de 10 jours, on va prendre tous les 10 jours une nouvelle étoile comme signal de fin de nuit. D'accord ? Imaginons que l'année fasse 360 jours égyptiennes. Ce qui veut dire qu'à un instant donné, ces groupes d'étoiles qu'on appelle des décans, vous en avez 18 au-dessus de l'horizon et 18 en dessous en théorie, puisqu'on a donc 360 jours divisé par 10, ça donne ça. Mais vous savez très bien, il ne fait pas nuit instantanément quand le soleil se couche. Il y a le crépuscule, il y a l'aube, d'autre part il y a un petit peu une inégalité des saisons à cette latitude égyptienne, ce qui fait que les prêtres avaient remarqué qu'à un instant donné la nuit, au-dessus de l'horizon, il y avait 12 décans, 12 groupes d'étoiles indicateurs de l'heure. Ils ont donc divisé la nuit en 12 heures et le jour également en 12 heures. Ce qui revient à dire que la division duodécimale du jour provient d'une division décimale du mois égyptien.
Merci beaucoup Denis Savoie et je renverrai évidemment à vos ouvrages Cosmographie, donc comprendre les mouvements du soleil, de la lune et des planètes paru chez Belin pour la science et puis évidemment l'éminent cadran solaire dans la même bonne maison. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve au prochain épisode.